Vous êtes d'accord ? Allez, livre de la Genèse. Livre de la Genèse, chapitre 12e. Voilà, pendant que vous cherchez, j'ai pu prévenir également plusieurs frères qui ont servi le Seigneur ici, qui vous transmettent leurs salutations, mais qui ont connu aussi bien la famille Falco. Je pense au frère Georges Fontaine, il y a eu Patrick Bartalon, le frère Ramos aussi, il y a eu qui d'autre ? Serge Contrastin qui a été averti, et Jean Bosco, Kenyan Ndekwe, hein, pour celles et ceux qui s'en souviennent. Voilà, et dans la mesure du possible, certains seront là, hein, présents pour eh bien, les obsèques. Voilà. Allez, on lit la bonne parole du Seigneur et on va dans le livre de la Genèse, au chapitre 12e et au verset 1er. Voici ce qui nous est dit. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan, et ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi, c'est-à-dire vers le sud. Et puis, un autre texte, cette fois-ci, c'est un verset. On va aller dans l'épître de Jacques, c'est dans le Nouveau Testament. Et Jacques, au chapitre 2e et au verset 23, voici ce qui nous est dit. « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. » Et je voudrais garder justement cette dernière formule, il fut appelé ami de Dieu. C'est quand même quelque chose de fort qu'un homme dans la Bible puisse avoir Dieu pour ami et que Dieu ait pour ami un homme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a là une relation intime, il y a là une connaissance mutuelle, eh bien des besoins, de la vie, du passé, des projets, etc. Et la Bible nous parle, eh bien, que Abraham fut appelé, eh bien, un ami de Dieu. Et nous sommes nous aussi appelés, eh bien, à être, eh bien, dans cette notion d'intimité. D'ailleurs, Jésus dira, eh bien, lorsqu'il sera dans ces derniers moments où il a partagé la première sainte cène, le pain, le vin, il annoncera sa mort à la croix. Et il dira ceci : il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et il dira, mais je vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami. Et il leur parle à cœur ouvert, en leur disant ce qu'il est. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, ils ont des choses, des questions qui leur viennent en tête, ils ne comprennent pas tout, mais le Seigneur répond à leurs questions, comme un homme parle avec deux amis qui parlent ensemble, voyez-vous. Et je voudrais que nous puissions comprendre quelle grâce merveilleuse nous avons, nous aussi, eh bien, d'avoir Dieu pour ami, d'avoir Christ pour ami, pour consolateur, alléluia, pour Seigneur, pour Sauveur, mais pour celui, eh bien, qui est intime dans nos vies. Alors, vous avez remarqué, ce texte, il se trouve dans le livre de la Genèse. On est à la fin de l'année, mais le livre de la Genèse, vous le savez, c'est le premier livre de la Bible. C'est ce livre qui commence ainsi, ben justement, au commencement, Dieu créa, alléluia. Et nous voulons dire, Seigneur, on est à la fin de l'année, mais même si on est à la fin, on veut te mettre au commencement de nos vies. Alléluia. On veut que tu sois au départ. Et vous le savez, mes frères et sœurs, C'est ainsi que nos vies ont du sens. En réalité, on ne sait pas grand-chose. On va y revenir dans un instant. On va parcourir un petit peu ce matin la biographie d'Abraham et de voir quel genre d'homme c'était, mais également sa relation avec Dieu. Mais vous savez que réellement sa vie commence à ce moment-là, dans Genèse 12, où Dieu l'interpelle, où Dieu vient vers lui, où Dieu se révèle à son cœur. Mais nous voulons dire... Ben, moi, je veux le dire aussi. Hein. Moi, ma vie, elle a commencé quand j'ai rencontré Jésus. Avant, c'était comme au commencement de la Bible, c'était du désordre, c'était tohu-bohu, tout était sans dessus-dessous, lorsque la lumière du Seigneur a touché ma vie. Alléluia. Et tout a commencé, alléluia. Et l'Écriture nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, et le verset 17, eh bien, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... passé, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et celui qui donne un nouveau départ et un nouveau commencement, eh bien, c'est le Seigneur. Amen. Alors, je voudrais parler, voilà, ensemble, que nous puissions parler de la relation que Dieu avait avec Abraham et que Abraham, eh bien, a eu avec Dieu. Qu'est-ce qu'il a découvert? Alors, j'ai noté pour vous ce matin, eh bien, quatre points, quatre caractères de la personne de Dieu qui vont impacter la vie d'Abraham. Premièrement, eh bien, Abraham a découvert que Dieu, c'était un Dieu de promesses, un Dieu qui faisait des promesses. Ensuite, il a découvert, on verra cela, un Dieu de grâce, un Dieu de grâce. Et on verra le troisième point également qui est extrêmement important, parce que c'est bien de savoir, mais Dieu nous demande de faire des choix. De faire des choix. Il y a des choses que Dieu fait, il y a des choses que Dieu ne fera pas à notre place. Les promesses, ça lui appartient. La grâce, ça lui appartient. Même le quatrième point que nous verrons, ça lui appartient. Il est celui qui bénit. Mais faire des choix, ça nous appartient. Et c'est un Dieu qui nous demande de faire des choix. Alléluia. Alors ces quatre points, nous allons les voir ensemble et on va feuilleter, bien entendu, eh bien, la bonne parole du Seigneur. Alors, vous savez qu'on a l'impression, et c'est mon premier point, Dieu de promesses, lorsque... Eh bien, Dieu parle à Abraham, on a l'impression que Abraham, depuis qu'il est né, il a connu Dieu. Le nom d'Abraham sur la terre, il est connu. Il y a trois religions, ce qu'on appelle les trois religions monothéistes, eh bien, qui invoquent un seul Dieu, qui prennent Abraham pour père, pour source en réalité. Et c'est vrai que nous aussi, et l'apôtre Paul nous le dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 4, qu'il est notre père. Abraham est notre père devant Dieu, devant celui auquel il a cru, Dieu qui ressuscite les morts et qui appelle les choses qui n'étaient pas comme si... elles étaient, et nous y reviendrons, Abraham est un exemple de foi. Et tout à l'heure, nous avons lu, eh bien, en fait, la foi d'Abraham lui a été comptée comme une action de justice qui permettait de lui sauver. On y reviendra, mais ça, c'est fondamental. Mais on peut avoir l'impression qu'Abraham a toujours connu Dieu, mais c'est faux. Lorsque nous lisons ce texte, nous découvrons qu'avant que Dieu l'interpelle, Abraham était sans connaissance de Dieu. C'était en réalité même un homme eh bien, qui était complètement anonyme. Si Dieu ne s'était pas adressé à lui, si Dieu ne lui avait pas parlé, personne n'aurait entendu parler de lui. Et je voudrais dire que nous aussi, à notre niveau, si nous n'avions pas reçu l'appel de Dieu, s'il n'y avait pas eu eh bien, cette révélation du Seigneur, comme François le disait, mais si Dieu n'était pas intervenu dans nos vies, mais on n'existerait pas. Nos vies n'auraient aucun sens, mais celui qui met du sens, eh bien, c'est ce Dieu d'amour. Alléluia. Amen. Et nous trouvons eh bien, dans ce texte un homme, nous y reviendrons tout à l'heure, eh bien, un homme qui est sans avenir, un homme qui est sans espérance, un homme eh bien, qui est touché par plusieurs drames. En réalité, il se trouve à Charan, nous y reviendrons tout à l'heure, mais à Charan, il y a eu un drame dans la vie de la famille d'Abraham. Il semblerait que l'appel de Dieu pour aller eh bien, en Canaan ait résonné dans cette famille, eh bien, tandis qu'ils étaient à Ur en Chaldée, c'est en Irak actuel. Et ils ont entrepris de partir, toute la famille, et ils se sont arrêtés à Charan. Et à Charan, eh bien, le père je retrouve son nom, Térak, le père d'Abraham, qui avait deux fils, donc Abraham et Haran, eh bien, se sont arrêtés. Il y a eu un drame. Haran, le fils, un des deux fils, est mort. Et Lot, donc, est resté. Et il y a certainement eu un coup d'arrêt parce que la famille n'a plus bougé. Ils sont restés bloqués là à Charan. Et puis, non seulement Térakh est mort, mais ensuite, eh bien, ça a été le tour du père. Et, donc Haran est mort, mais ensuite Térakh est décédé. Et on s'aperçoit que ben, la famille s'est arrêtée là. Voilà. C'est comme si la vie s'était arrêtée. Il y a un coup d'arrêt. Et c'est à ce moment-là où Dieu lui parle et lui fait des promesses. Et lui fait des promesses. Il parle pas à un homme qui est au sommet de son ascension, qui a tout réussi, mais émotionnellement, psychologiquement, familialement, peut-être même professionnellement, ça va pas. Il y a un temps d'arrêt. Il y a comme quelque chose qui a été cassé. Et c'est à ce moment-là que Dieu se révèle à Abraham comme étant un Dieu qui fait des promesses, c'est-à-dire un Dieu qui a des plans pour notre avenir. Alléluia. Parce que mes frères et sœurs, si Dieu s'emploie à parler à un inconnu qui s'appelait Abraham, qui venait durant Chaldée, il y a de cela des millénaires, ça doit nous parler à nous qui sommes à la Mosson. Peut-être que la Mosson, personne ne connaît, ou alors on connaît de mauvaises réputations, ou je ne sais pas. Mais je voudrais vous dire ceci, c'est que dans la Mosson, Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Amen. Et il veut te faire des promesses. Alléluia. Et vous savez, la Bible, c'est un livre de promesses. Acte 16, 31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Jean 11, 40, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean, Luc 8, 50, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. C'est Jésus qui parlera à Jaïrus. Et nous savons que les promesses de Dieu, elles sont là pour nous donner un avenir. Alors, je voudrais qu'on lise quand même ensemble un texte fondamental concernant cela. C'est dans Jérémie, le chapitre 29 et le verset 11. C'est peut-être... Moi, c'est un des versets que je préfère dans la Bible. Est-ce que vous avez des versets que vous aimez particulièrement? Oui, non? Vous avez des textes que vous relisez de temps en temps? Voilà des promesses que Dieu vous a faites. Voyez. Et ici, voici ce qu'il nous est dit. Jérémie 29, 11. « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Je ne sais pas si vous avez... Si vous êtes comme moi, mais je pense qu'on a besoin d'entendre les promesses de Dieu. On a besoin de savoir que Dieu a pour nous des projets de paix, d'espérance. Parce que lorsque l'on connaît ce monde, lorsque nous regardons un petit peu l'état de ce monde, on s'aperçoit qu'en matière d'avenir, il y a le frein à main. Qu'est-ce que vous en pensez? Parle de guerre, parle de bruit de guerre. Politiquement, on s'aperçoit que c'est comme ça. Économiquement... climatiquement, le climat, et on voit des générations qui se lèvent, qui sont, on appelle ça angoissées, etc. Bon, bref, il y a des changements dans la société, et Dieu nous fait des promesses. Et tout à l'heure, nous lisions dans Ésaïe au chapitre 8, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. » Et mes frères et sœurs, on a besoin de se nourrir de cela. C'est bien si une fois par jour, tu regardes les informations que tu allumes, BFM, pour te tenir au courant. Très bien. Mais lis la parole de Dieu. Alléluia. Connais les plans de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Pourquoi je dis ça? Mais il faut être informé. On n'est pas satellisé. On n'est pas sur orbite. On a les pieds sur la terre. Mais on a besoin de connaître le plan de Dieu pour notre vie. Alléluia. Et le Seigneur nous dit, si tu crois... Si tu places ta confiance en moi, sur cette terre où il y a des détresses, où il y a des divorces, où il y a de l'impudicité, etc., etc., si tu crois, toi, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour ce jeune ami-là qui peut nous dire, le Seigneur va le libérer de la drogue. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. C'est la victoire du Seigneur dans nos vies. Alléluia. Et celui qui rend possible l'accomplissement des promesses n'est autre que Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, on va y revenir longuement, mais ça ne repose pas sur nous. L'avenir que nous avons, il ne repose pas sur nous, il repose sur Jésus-Christ. Et nous, nous appuyons sur Jésus. Et on a besoin les uns et les autres, eh bien, d'avoir une connaissance assez exacte quand même de la personne de Jésus-Christ. J'ai aimé ces chants qui nous donnent les qui ont donné tous les noms de Jésus. C'est... Moi, des fois, je me dis, Seigneur, on perd du temps à toutes sortes de choses et vraiment, tout à l'heure, François le disait, mais revenir à la source, mais connaître Jésus, avoir une relation, un cœur à cœur, mais c'est ça qui nourrit notre âme, oui ou non ? C'est ça qui nourrit notre foi, mais le connaître, toi, Seigneur, mais tu es le consolateur, prince de la paix, Père éternel, Dieu tout-puissant, Seigneur, mais toutes ces choses, ça nourrit mon âme. Et entre autres choses, eh bien, tu nous dis que tu es la résurrection et la vie. Vous savez, dans la Bible, il y a deux alliances. Il y a deux alliances, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, celle que Dieu a fait avec son peuple. Et elle reposait sur les œuvres et les efforts du peuple. Voyez. Et si tu mets ces choses en pratique, tu vivras. Conséquence, échec. Parce que personne n'est capable de mettre en pratique la loi. Pourquoi ? Parce que notre cœur... Merci Seigneur pour la nouvelle nature que tu m'as donnée. Mais je ne sais pas vous, moi j'ai encore des combats avec ma vieille nature. Hein. Oui ou non ? Je suis le seul à avoir des combats ? Vous n'en avez pas vous ? Ben, moi j'en ai. Hein. Il y en a une sœur, elle me dit... Je la vois, elle souffle comme ça. Fait. Et ouais, c'est vrai. Qui me délivrera de ce corps de mort, dira l'apôtre Paul. Hein. Et oui, on en a des combats. Et par contre, la nouvelle alliance, elle repose pas sur mes capacités. En fait, la nouvelle alliance, elle est faite entre Dieu et le roi, le représentant d'un peuple nouveau. La nouvelle alliance en mon sang. C'est-à-dire, nous tous qui avons choisi de suivre Jésus, nous sommes englobés dans une alliance qui est faite entre le Père et son Fils. Ceux qui te suivront, ils sont sauvés. Ceux qui acceptent que tu règnes sur leur vie, ils sont rachetés parce que tu as livré ta vie pour eux à la croix du calvaire. Alléluia. Cette nouvelle alliance, elle ne repose pas sur tes efforts, elle repose sur Jésus-Christ. Et toi, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est de croire en lui. C'est de lui faire confiance. Et sans faire un acte de justice, sans faire un pèlerinage, sans je ne sais pas quoi faire. Et la Bible nous dit, c'est ainsi qu'a fonctionné Abraham. Parce que lui aussi, il était dans une impasse. Lui, eh bien, Dieu lui avait fait des promesses. Mais cependant, cette promesse ne pouvait humainement s'accomplir parce que sa femme était stérile, il devait avoir une postérité. Mais il a cru que Dieu était capable de mettre la mort, de mettre la vie là où il y avait la mort, de mettre la vie là où il y avait la mort. Et la Bible nous dit, eh bien, que cette foi qu'il a eue lui a été comptée comme un acte de justice, comme s'il faisait les meilleures œuvres du monde. Seigneur, je crois dans ta bonté. Je crois dans tes promesses, je crois dans ton salut. Je ne sais pas tout expliquer, mais je crois que ce que tu as dit, tu vas le faire. Alléluia, c'est un Dieu de promesses. Amen, alléluia. Et je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, mon ami, eh bien, les promesses de Dieu ne changent pas. Amen. Et Dieu veut encore accomplir ses promesses dans ta vie. Dieu veut encore se révéler et nous voulons, eh bien, élever le beau nom du Seigneur. Amen. Je peux passer au deuxième point ? Alors Dieu, c'est un Dieu aussi, un Dieu de grâce. Abraham, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un homme sans avenir. Et la grâce de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors on l'a vu il y a quelque temps en arrière, c'est la faveur imméritée, c'est l'intérêt que Dieu nous porte. Vous avez remarqué que si Dieu ne s'était pas adressé à Abraham, il aurait été au courant de rien. En réalité, la grâce nous parle de l'initiative de Dieu à notre égard. C'est lui qui prend les devants. C'est lui qui fait le premier pas. C'est lui qui, déjà, quelqu'un a prié comme cela. Avant que le monde existe, tu nous avais prédestinés. Mais c'est extraordinaire. Alors, il y en a certains qui ont exagéré cela. Mais Dieu a prédestiné certains à être perdus, à être sauvés. Non, ce n'est pas vrai. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais en fonction de leur choix, les hommes soit entrent dans le plan de Dieu ou alors s'en soustraient et sont perdus. Les uns sont perdus et les autres sont sauvés. Mais au départ, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais nous voyons ici que Abraham et cet homme qui va placer sa foi, eh bien, en Dieu, qui a la seule qui lui seul a la solution pour venir à son secours. Et je voudrais vraiment que nous puissions le garder dans notre cœur. Eh bien, ce Dieu d'amour, il est venu vers Abraham, il s'est adressé personnellement à lui, comme il veut s'adresser personnellement à toi. La grâce de Dieu, c'est pour le monde entier, mais c'est personnellement qu'on la reçoit et qu'on l'accepte. Et ce matin, je crois que le Seigneur veut toucher nos cœurs et nos vies pour nous dire, c'est à toi que je m'adresse personnellement. C'est à toi que je veux faire grâce. C'est toi que je veux bénir. C'est pour toi que mon fils est mort. C'est pour toi qu'il est ressuscité. C'est pour toi qu'il intercède à ma droite pour que, que tu saches que jamais rien dans le monde ne pourra te séparer de son amour. Et je veux que tu le saches personnellement. Et nous voyons dans toutes les Écritures et dans nos vies également que Dieu a interpellé de façon personnelle des hommes, les connaissant par leur nom, les appelant par leur nom. Et ce matin, je voudrais que nous puissions peut-être sortir d'un système de pensée qui dira, mais on a tous loué le Seigneur, on est tous ensemble, c'est bien, c'est beau. Mais je voudrais te dire ceci, ne te cache pas derrière la foule ou derrière le nombre. Le Seigneur veut te rencontrer personnellement. Et il veut agir personnellement dans ta vie. On pourra dire, au travers de l'Église, le Seigneur me bénit. Le Seigneur étant sa bénédiction, on est heureux, mais peut-être tu traverses une peine, un conflit, une situation extrêmement compliquée. Mais la grâce de Dieu a pour objet ta propre personne. C'est toi qu'il veut bénir. C'est dans ta vie qu'il veut intervenir. Et c'est pour toi qu'il a payé cette dette à la croix du calvaire afin que tu ne périsses pas. Vous savez, mes frères et sœurs, on a besoin de se laisser aimer. On a besoin de dire, mais Seigneur, vous savez, on est dans un monde ultra compétitif. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui ou non? Moi, quand je vois mes enfants, alors et les autres, hein. Avec ma femme, on se faisait cette réflexion. Mais quand on était au collège, au lycée, on n'avait pas cet esprit de compétition. Là, il y en a plusieurs. Hein. Je vois Laetitia, il y en a d'autres. Hein, voilà, tous les jeunes. Mais dès la jeunesse, ils ont, dès l'enfance, cet état d'esprit. Pour y arriver, il faut que je sois le meilleur. C'est très bien. Hein. Je suis. Allez-y. Hein. Oh. Allez-y. Hein. Non, mais c'est vrai, hein? Oui ou non? Oui, oui. Mais il y a un côté pervers à ça. Si tu n'arrives pas à être le meilleur, alors tu ne vaux plus rien. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu n'arrives pas à être le meilleur, tu n'as plus de... Moi, une fois, je me suis retrouvé, c'était en salle de sport. À l'époque, on jouait au foot, au basket, etc., et on avait des copains là, qui étaient chefs d'équipe. Vous vous souvenez de ça? Et ils choisissaient. Vous savez, vous vous souvenez, Anna Emmanuel, il me regarde. Il dit, toi. Et alors, les meilleurs étaient pris en premier. Tu vois? Et il y a des gars qui ont disputé, tu sais. Voilà, alors je vous assure qu'on ne me prenait jamais en premier. On dirait, oh le pauvre. Voilà, ouais. Et je vais dire la suite. Et alors, t'es pas pris en premier, t'es pas le meilleur, t'as pas eu la fac de ceci, t'as pas réussi le diplôme de machin, etc. Tant mieux si vous l'avez, hein, le diplôme. Je veux pas vraiment. Au contraire, je veux valoriser les études et qu'on puisse prier pour les étudiants. Amen. Qu'ils y arrivent. Alléluia. Parce que Dieu veut les bénir. Et je crois que Dieu même est intéressé dans leur succès. Parce que. Qu'il y ait des enfants, des jeunes, des moins jeunes, qui peuvent se dire, mais si j'en suis là où j'en suis, c'est pas moi la gloire, c'est Dieu qui m'a soutenu. Alléluia, amen, et que Dieu les bénisse. Cependant, on veut dire, mais si nous sommes ce que nous sommes, c'est pas parce que on l'a voulu particulièrement ou c'était les conséquences de nos actes de piété. Mais c'est parce que c'est Dieu qui nous a fait grâce. Et nous, on a laissé la grâce de Dieu agir dans nos vies. On a accepté que Dieu nous secourt. On n'a pas le temps de le lire, mais vous le lirez dans 1 Timothée au chapitre premier au verset 6, Paul va avertir Timothée. Il va parler de gens qui s'improvisent prédicateurs et qui ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils enseignent. Et ils remettent les gens sous le joug de la loi. Il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, et Dieu va te bénir. Et Paul dit, mais punaise, c'est moi qui parle comme ça. Moi, j'étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Selon la loi, j'étais mis à mort, mais j'ai obtenu miséricorde. Et il dira, c'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier, c'est-à-dire le pire. C'est le pire. Dieu bâtissait son église, moi je détruisais ce que Dieu faisait. Mais le pire ennemi de Dieu, aveuglé, piloté par le diable, et moi j'ai obtenu miséricorde. Alors c'est pas par mes œuvres de justice, c'est parce que Dieu m'a fait grâce. Alléluia, amen. Et Dieu, c'est un Dieu de grâce. Est-ce que tu crois encore dans la grâce de Dieu? Tu crois encore que Dieu est capable de s'intéresser à ta vie? Tu crois que le Seigneur est encore capable d'essuyer les larmes de tes yeux, de te pardonner, de te donner un nouveau départ? Parce que s'il y a quelqu'un qui a eu besoin de pardon, d'être relevé, tu sais, on élève des hommes comme ça, Abraham, 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 voilà. Abraham, il s'est bien planté. Vous vous souvenez l'histoire de l'Égypte? Vous vous souvenez l'histoire d'Agar, l'histoire d'Ismaël? C'était quand même de grandes désobéissances, cela. Et là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et le péché, ce n'est pas que l'immoralité. Le péché, c'est une attitude de rébellion à l'égard de Dieu. Vous voyez, de fermer son cœur. Et peut-être quelqu'un a fermé son cœur. Ouais, mais à l'âge que j'ai, avec, je devrais être un... Compte sur la grâce de Dieu, ce n'est pas terminé encore. Amen. Laisse le Seigneur t'aider, laisse le Seigneur te bénir. Alors j'espère que vous avez quand même compris que tandis que je suis en train de vous parler de la grâce, cette grâce, elle ne nous sert pas à justifier et à excuser toutes nos faiblesses, mais elle nous fait comprendre l'amour, la puissance, la sagesse de Dieu à notre égard, pour que justement nous dépassions toutes ces faiblesses et que nous puissions entrer dans ses plans. Alléluia. La grâce de Dieu, ce n'est pas un justificatif pour dire, Seigneur, prends-moi tel que je suis, et accepte-moi, voilà, comme ça. Mais bien sûr, le Seigneur t'accepte, mais le Seigneur veut te changer. Alléluia. Et la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, ce n'est pas pour justifier le péché, c'est pour justifier le pécheur. Et un pécheur justifié par Dieu, il abandonne son péché. Amen. Alors, le troisième point que je voudrais aborder, et qui est extrêmement important, c'est que Dieu, c'est un Dieu de choix. Vous avez remarqué, dans Genèse 12, on revient à cela, verset 1er, Dieu, la première parole qu'il lui dit, alors bien sûr, il va lui dire, je te bénis, etc. Mais il lui dit, va-t'en de la maison de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Il y a la part de Dieu. Mais je le disais tout à l'heure, il y a la part de celui qui place sa foi dans le Seigneur. La grâce, les promesses de Dieu sont conditionnées à une position de foi, à une décision qui parfois se fait dans une forme de violence, pas physique, mais de dire, maintenant, qu'est-ce qui compte le plus pour moi, Seigneur? Est-ce que ce sont les événements de ma vie? Ou est-ce que c'est l'appel que tu m'adresses? Qu'est-ce qu'il y a de plus important? Je rappelle, lorsque Abraham fait son choix, il se trouve à Charan, son père est mort, son frère est mort, et avec sa femme qui ne peut pas avoir d'enfant, il se retrouve tout seul avec Lot, le neveu. Il pourrait se dire, on reste là. Charan, ça a été traduit par aussi, une des traductions possibles, c'est ses petits fruits. Ça va, j'ai la crainte de Dieu, on s'est arrêté en chemin. Mais Dieu a tellement plus pour lui. Il y a un plan où vraiment il veut mettre la vie. Pas quelque chose de boiteux. Pas simplement te dire, j'ai fait ma part, j'ai fait des concessions, ça me suffit bien, je viens au culte le dimanche, et de temps en temps, excusez-moi de parler comme ça, je mets un peu le bon Dieu dans ma vie. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas le Dieu de l'Évangile. Peut-être quelqu'un s'est-il arrêté dans le plan de Dieu. Peut-être que tu as commencé, mais tu t'es arrêté à Charan. Et qu'est-ce qui te retient à Charan? Parfois, on se culpabilise. On se culpabilise. Parce qu'on se dit, avec le décès d'un tel, la disparition d'un tel, j'ai plus le droit d'être heureux. Et alors, et pourquoi? Et pourquoi? Le plan de Dieu n'est pas terminé. Et frères et sœurs, lorsque j'ai préparé ce message, je bénis le Seigneur parce que je l'ai préparé dans une nuit. Bon, j'y ai retravaillé. Hein. Et notre frère Claude n'était pas encore parti avec le Seigneur. Donc la pensée, elle n'était pas altérée par ça. Et c'est vraiment ce que j'avais reçu. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est ce que le Seigneur te dit. Va-t'en, quitte la maison de ton père, ta patrie, va dans le pays que je te montrerai, et c'est là que je vais te bénir. Ou est-ce que ce qui est le plus important, c'est de garder ma déception, garder mon amertume, garder ma tristesse, garder ma blessure, eh bien de mes souffrances. Et nous voyons que la qualité d'Abraham, eh bien, ça va être celle-ci. C'est-à-dire, mais Seigneur, je vais t'obéir. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et je voudrais te dire, la vie d'Abraham, dans toute sa vie, elle a été faite de choix et de décisions, parfois difficiles à prendre. La vie chrétienne, elle est faite de choix et de décisions dures à prendre. Parfois, on doit pleurer, on se repent, mais on les prend, les décisions. Lorsque il descend en Égypte avec sa femme, on vous relirez dans Genèse 12, relisez pendant ces temps de congé là, la vie d'Abraham, mais et que Dieu le reprend, mais il s'humilie et il reprend le bon chemin. Lorsqu'il doit se séparer de Lot parce qu'il y a des disputes, il va à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Il se sépare de Lot, il devra se séparer d'Agar, il devra se séparer d'Ismaël, il devra faire des choix dans sa vie. Et ce sont des choix qui seront sans compromis. Et lorsque Dieu lui parlera un peu plus tard dans le livre de la Genèse, au chapitre 17, il lui dira, je suis le Tout-Puissant, chapitre 17, verset 1er, il dira ceci, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Être intègre, ça veut dire être entier. Entier. Tu peux te tromper, mais tu peux aussi te repentir. Et dire, Seigneur, je ne vais pas rester comme ça. Et je veux plus que ce soit moi qui vive mes décisions, mes pensées. Mais je veux que ce soit toi, Seigneur, qui vive en moi. Et c'est ça un disciple joyeux du Seigneur. C'est quelqu'un qui fait comme ce que le Seigneur lui a dit dans l'Évangile selon Luc au chapitre 9 et au verset, il faut que je redresse. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de la croix et qu'il me suive. Pour que la bénédiction se fasse dans la vie d'Abraham, il y aura une succession de séparations. Et vous savez que le Seigneur nous montre parfois petit à petit, tiens là il y a un compromis, là il y a un compromis, là il y a un compromis. Tu es sauvé, hein ? La grâce elle est là. Tu appartiens au Seigneur. Mais un disciple a toujours besoin de faire des progrès avec le Seigneur. Et on dit, mais Seigneur c'est vrai, je ne veux pas me laisser polluer par toutes ces choses. Vous savez que le diable, il est rusé. Hein. On a des smartphones, on a des... Vous avez vu le nombre de films que vous pouvez voir à la télé? Vous avez vu ça? Vous connaissez Netflix? Vous connaissez Prime Video? Vous connaissez Disney Plus, tout ça? Vous connaissez tout ça? Vous pouvez voir... Vous avez accès à des milliers de films. Voilà. Mais au bout d'un moment, il faut dire, Seigneur, qu'est-ce que... Je vais passer ma vie, je vous parle même aux plus jeunes, hein. Je vais passer ma vie et mon temps à regarder la série sans arrêt. Pourra pas y avoir de progrès s'il n'y aura pas eh bien, de décision forte envers le Seigneur et de dire Seigneur Jésus, eh bien, je veux eh bien, te suivre toi et toi seul, alléluia. je veux eh bien, faire ses choix et ses décisions. Et l'Écriture nous dit et nous montre eh bien, que Abraham a été un homme eh bien, dont la vie a été faite de décisions. Et jusqu'au bout, eh bien, il a dû faire passer le Seigneur en premier. Et chers frères, chères sœurs, peut-être nous sommes arrivés à un temps où nous pensons que eh bien, la vie chrétienne, le Seigneur, nous prenons son amour comme étant, j'allais dire, un laissez-passer pour toutes sortes de, j'allais dire, de facilités. Mais ce matin, le Seigneur veut t'appeler à plus. Il veut que tu entres dans les promesses de Dieu. Il veut que tu vois sa grâce. Il veut te faire voir sa victoire, sa gloire dans ta vie. Alléluia. Et ne laisse pas les choses assombrir ton cœur. Ne laisse pas, eh bien, les téraques, les harangues, les charangues, eh bien, peser sur ta vie. Je vais juste lire un texte qui est extrêmement fort, qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, si vous avez encore un moment. Actes des Apôtres, le chapitre 20e et le verset 24. Paul est appelé à servir le Seigneur et il comprend que ce n'est pas facile. Il comprend que c'est compliqué. Et peut-être quelqu'un comprend qu'il y a des choix, qu'il y a des décisions. Et tu t'aperçois que la vie chrétienne, elle est faite de choix, elle est faite de décisions qui sont parfois lourdes de conséquences, où tu dois être entier. Mais regardez ce que disait l'apôtre Paul. « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. » Et c'est cela que je voudrais voir avec vous. « Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Voilà, Seigneur, je ne veux pas me lamenter sur mon sort. Pauvre apôtre Paul, qui va être persécuté, et c'est vrai, qui va être trahi, et c'est vrai, qui va ne pas être compris de la part de son propre peuple, et c'est vrai. Il dit, mais écoute, moi je ne veux pas, je ne fais pas cas de ma vie. Hein. Ça, ce n'est pas ça qui est important. Pour moi, ce qui est important, c'est que je cours. Mais avec joie. Amen. Amen. Je ne crois pas qu'Abraham a été malheureux. Je suis l'ami de Dieu. Alléluia. Et je termine en disant tout simplement ceci. Eh bien, c'est que Dieu a été pour Abraham, et il veut l'être pour chacun d'entre nous, un Dieu de bénédiction. C'est-à-dire un Dieu qui fait du bien. Alléluia. Moi, je trouve que le bien fondamental dans notre vie, c'est la présence du Seigneur à nos côtés. Proverbe 23, verset 6, « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Je vous l'ai dit tout à l'heure, Abraham a eu ses hauts, ses bas. Il a pris des décisions qui l'ont toujours mené eh bien, à rester attaché au Seigneur. Et il a vu cette bénédiction. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais mon frère, ma soeur, c'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça la plus grande... Tony, amen. Le bonheur et la grâce, amen. Et nous le voyons ici, eh bien, et cette promesse eh bien, va s'accomplir sur le chemin de l'obéissance, sur le chemin eh bien, de la foi. Et cette bénédiction va le toucher personnellement, lui et son épouse. Parce que lorsqu'on s'attend à Dieu, Dieu bénit, amen. Et ils vont avoir un fils, Isaac, qui va naître. Et d'Isaac, eh bien, va naître une grande joie, un grand bonheur dans cette famille. Il va y avoir vraiment une bénédiction. Tout à l'heure, retourner à la source. Mais Abraham, il va lui être dit, mais tu vas toi-même devenir une source de bénédiction. Alléluia. C'est-à-dire que quand on a ce cœur à cœur avec le Seigneur, lorsqu'on est un ami du Seigneur, lorsqu'on est un intime, qu'on connaît ses promesses, qu'on compte sur sa grâce et qu'on fait des choix parce qu'on l'aime, alléluia, on devient soi-même, pour ceux qui nous entourent, une source de bénédiction. Cette vie-là, cette vie qu'il a, je veux la mener, alléluia. Cette joie, cette paix, cet amour, cette grâce, j'en veux dans ma vie, alléluia. Et vous savez qu'au travers d'Abraham, au travers d'Isaac, de Jacob, eh bien, va naître... à travers du peuple d'Israël, le Messie qui va être eh bien, le sauveur du monde. Alléluia! Et ce plan va, eh bien, va en faire entrer le monde eh bien, dans une bénédiction à laquelle nous participons, nous sommes sauvés. Je termine complètement, je l'ai dit trois fois, Guillaume. T'as vu? Donc ça veut dire dernier jour de l'année. Hein, dernier jour de l'année. Je suis dans les temps. Hein, Eh ouais. Je termine sur quelque chose d'un petit peu agressif. Je maudirai ceux qui te maudiront. Alors, c'est quand même associé à Israël aussi, hein, de nous faire réfléchir. Bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Mais Dieu est en train de dire, je vais combattre pour toi. Moi, dans le langage, dans mon langage à moi, ça veut dire, on n'a pas intérêt à t'attaquer. C'est parce que celui qui va t'attaquer, celui qui va te chercher du mal, c'est à moi qu'il aura affaire. Et mes frères et sœurs, ben, je suis content de terminer l'année en me souvenant que mon rocher, mon bouclier, c'est lui. Alléluia. Amen. Je peux m'endormir en paix. Seigneur, c'est toi qui veilles sur moi. Alléluia. Tu conduis ma vie. Alléluia. Et tu es mon avocat, mon défenseur. C'est sûr, il y a l'ennemi, il est là. Le diable, il est là. Les démons sont là. Les tentations sont là. Mais celui qui me protège et qui me défend, c'est toi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est ça aussi, avoir la bénédiction du Seigneur. Alors, tout simplement, eh bien, Dieu est un Dieu de promesses. Dieu est un Dieu qui fait grâce, qui pardonne et qui donne du secours à celui qui s'attend à lui. Mais Dieu est un Dieu qui attend que l'on choisisse. Alléluia. Ne pas vivre selon sa chair, mais selon sa nature, selon l'esprit. Et Dieu, eh bien, est un Dieu qui bénit. Amen. Vous voulez bien qu'on le bénisse, qu'on lui rende gloire. Alléluia. Seigneur, à l'issue de cette année, nous voulons te dire merci. C'est le dernier jour de l'année, mais nous voulons te mettre au commencement de nos vies.